Aujourd'hui, l'Église, eh bien, nous propose de regarder un passage très intéressant de l'Évangile, la façon dont Jésus organisait concrètement son apostolat, sa prédication. C'était pas seulement une itinérance aveugle, fruit du hasard, de la pure providence. Il marchait puis s'arrêtait quand il était fatigué ou quand il voyait un signe qui lui permettait de choisir de s'arrêter. Non, on le voit, il y a d'abord l'envoi des 12 qui précède celui des 72 disciples que nous avons lu maintenant. Le Seigneur envoyait préparer sa venue dans les villes et les villages où il devait et bien résider. En fait, la mission des apôtres, enfin des disciples ici, c'est pas les 12 là, mais peu importe, c'est la même pour les 12, c'est exactement la même structure. Eh bien, ça consistait à faire un peu ce que faisait Jean-Baptiste, à annoncer la venue du Christ. Voilà la préparation concrète. Alors, cette préparation a servi de modèle, notamment pour tous les instituts religieux qui étaient apostoliques par nature, qui devaient annoncer ces religieux qu'on peut voir donc et entendre, pas ceux qui restent dans leur monastère, les religieux dont je fais personnellement partie d'ailleurs. C'est un schème, on appelle ça comme ça, un schéma qu'on retrouve dans toutes les règles que ces instituts ont, deux par deux, se fier à la providence, ne rien emporter, ni bourse, ni sac, vous voyez, etc. Et puis vivre de la prédication de l'Évangile, dans la pure gratuité. Et c'est très beau, voilà comment, dans quel état d'esprit Jésus envoie ses disciples pour préparer concrètement sa venue. Elle est à la portée de tous, c'est le premier constat. Il n'y a pas de moyens humains qui devraient être obtenus par avance. Il faut connaître le Christ, bien évidemment, mais à partir de cette connaissance et de cet amour de Jésus, ben, il n'y a pas d'autre préparation en tant que telle, sauf notre liberté. Donc ni bourse, c'est l'argent, ni sac, c'est tous les préparatifs, les tentes et tout ce qu'on peut imaginer, la nourriture, ni sandales de rechange, c'est-à-dire pour une longue période. Non, on y va tel qu'on est, sans autre moyen ni disposition humaine que les nôtres. Voilà comment le Seigneur nous envoie préparer sa venue dans les cœurs des uns et des autres. Ne pas saluer les gens. On peut s'étonner de cette interdiction que le Seigneur fait à ses disciples. Ne saluer personne en chemin. C'est-à-dire, ça veut dire rester concentré sur votre mission. Saluer quelqu'un en chemin, ça veut dire s'arrêter, commencer à discuter, aller prendre une bière, et puis finalement on s'oublie un peu jusqu'au point où on s'endort sur place parfois. Ne saluer personne en chemin. Gardez vraiment à l'esprit et au cœur eh bien, cette mission de préparer le chemin du Seigneur comme étant la chose la plus importante. Et par le jour du Seigneur, bien, je trouve que c'est bien, le dimanche, eh bien, de se souvenir de cela, par exemple, et de ne pas se complaire uniquement dans les sujets profanes, de ne pas se complaire en famille ou entre amis uniquement dans des activités profanes. Mettre Dieu. Et le bon moyen, c'est évidemment de faire partie de ces 72, en esprit bien sûr. Être des hommes de paix. En quelques maisons où on vous recevra, dites paix à cette maison. Et s'il y a un artisan de paix sur cette maison, eh bien la paix, votre paix, viendra reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous, la paix n'est jamais perdue. Il faut être artisan de paix. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça s'oppose à toutes les formes de manipulation, vous voyez. C'est très facile de se dire, je vais endoctriner les gens. Il y a plein de sectes qui existent comme ça. Il y a plein d'églises aussi, protestantes ou autres, qui fonctionnent un peu sur ce type de dynamique. hein, les dynamiques de type les témoins de Jéhovah, vous voyez, ce genre de choses, ou certaines églises protestantes. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps là, des représentants d'une de ces églises. Ils fonctionnaient vraiment comme les témoins de Jéhovah, sauf que eux croient en la divinité du Christ. C'était quand même autre chose. Mais toujours la même technique. Vous voyez, on se réunit, on fait des conférences, on étudie tous les arguments, on les apprend par cœur. Que vous parliez avec l'un ou l'autre, vous avez la même leçon qui est débitée de la même façon. Ça, c'est trop de préparation. La paix, c'est cette gratuité, c'est ne pas vouloir manipuler. La vérité est trop grande pour qu'on la manipule. Si on la manipule, ça veut dire qu'on fabrique une petite boîte dans laquelle, eh bien, on dit, ben voilà, pour prier, tu te mets 5 fois à genoux tous les jours, et tu te tournes vers l'est, avec ou sans tapis, etc., etc. Et après, tu fais ce que tu veux, hein, tu méprises qui tu veux, tu voles qui tu veux, ça n'a pas d'importance. La vérité est trop grande pour qu'on la mette dans des petites boîtes rituelles. C'est pas possible. En même temps, il faut accorder au rite son importance sans l'exagérer. C'est toujours un équilibre, toute l'histoire de l'Église est en équilibre autour de cela. Le désintéressement, être des hommes de paix, ça signifie être désintéressé. Parce que nous préparons la venue du Seigneur. La maison qui accueille les 72, envoyés 2 par 2, c'est le lieu même de la prédication, de la proclamation. En tant que tel, vous savez, à l'époque, dans l'Antiquité, ça fonctionnait comme ça, les voyageurs arrivaient sur la place publique. Les habitants qui désiraient voir de nouveaux visages, entendre des nouvelles d'ailleurs, etc., eh bien, étaient aussi sur la place publique, aux aguets, pour voir s'il n'y avait pas un étranger à accueillir chez eux. C'est comme ça que les patriarches sont accueillis, on voit ça dans tout l'Ancien Testament. Mais on ne reste pas sur la place publique. Rester la nuit sur la place publique, c'est un signe de malédiction. Ça veut dire que personne ne vous accueille. Donc le lieu de la prédication pour ses disciples, c'est les maisons où ils sont accueillis. Manger ce qu'on vous donnera. Ça veut dire s'adapter à l'auditoire. Ne pas, l'inculturation, on pourrait dire une forme d'inculturation. Prendre la situation des gens telle qu'elle est, où ils sont, et à partir de là, leur parler de Jésus-Christ. Guérir les malades dans cette maison toujours. Alors cette maison, c'est pas seulement ceux qui y habitent. Les gens, quand ils accueillent des représentants de l'Évangile, eh bien, ils invitent tous leurs voisins, toutes leurs connaissances. La maison est très remplie, hein. Eh bien, c'est guérir les gens, non seulement des maladies physiques, comme le fait Jésus, mais c'est guérir d'une maladie bien plus fondamentale, la guérison du non-sens de la vie lorsqu'elle est vécue sans Dieu. Ça, c'est la grande guérison, celle qui dépasse toutes les autres et qui inclut toutes les autres. Et si vous n'êtes pas accueillis, dit Jésus, eh bien, ne vous imposez pas. Ne condamnez pas non plus Jean et son frère Jacques, justement un jour, en passant dans un village où, qui ne voulait pas accueillir Jésus, leur dit, est-ce que tu veux, Seigneur, qu'on demande à Dieu de lancer le feu du ciel pour consumer ce village? Jésus les calme tout de suite, un peu en colère d'ailleurs, et il s'en va plus loin dans un autre village, nous dit le texte. Jésus était vraiment un artisan de paix, il ne voulait rien imposer. Mais en même temps, sa prédication se fait avec beaucoup d'insistance, au point d'ailleurs de mourir sur une croix pour montrer à tout le monde le caractère ultime et décisif de sa mission, de sa proclamation. Je voyais le diable tomber du ciel comme l'éclair. Ah, les disciples sont très contents. Ils ont réussi leur premier test, leur première mission, là, et ils reviennent en disant que même les esprits mauvais leur sont soumis, ils n'en reviennent pas. On invoque Jésus et hop, ça marche. Souvenez-vous, ailleurs, dans un autre texte, les disciples, les 12 cette fois-ci, viennent voir Jésus et lui disent « Oh là là, il y a quelqu'un là qui chasse des démons en ton nom. On a essayé de l'en empêcher, mais il ne veut pas nous suivre. » Jésus leur dit « Laissez-le, il ne peut pas parler mal de moi avant un certain temps, en tout cas, précise-t-il. » Ça veut dire que lorsqu'on met vraiment sa confiance dans le nom de Jésus, même lorsqu'on n'a pas son programme au cœur, ni dans la tête d'ailleurs, qu'on ne connaît pas bien l'Évangile, eh bien on peut chasser des démons, même en son nom, si on croit vraiment qu'il est la source de la lumière qui disperse, qui chasse le mal dans le monde. Ça peut aller jusque-là, la foi sur simplement sa divinité, sa toute-puissance, sans même connaître l'Évangile. Jésus dit, ben oui, je voyais le diable tomber du ciel comme l'éclair, une perte de puissance colossale pour le diable. Il y a un autre passage qui nous parle plus en détail de la chute de Satan. La chute de Satan dans l'Apocalypse. Il est au ciel, mais pas comme un ange de lumière. Il est au ciel sous la forme d'un dragon, monstrueux, symbole du mal, l'inventeur du mal. Mais il est au ciel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire croire aux hommes qu'il est Dieu, ou en tout cas un Dieu, une divinité. Beaucoup croyaient jusqu'à l'époque du Christ en ces divinités, alors que ce n'était que des anges et des anges maudits, ou alors rien du tout, tout simplement, juste une statue et rien d'autre. Mais dès qu'on entrait en contact avec ces divinités, c'était les démons qui exerçaient leur pouvoir. Ils se cachaient derrière le monde divin. Jésus a dénoncé radicalement ce mensonge. Et de fait, Satan est chassé du ciel de cette façon-là, en quelque sorte. Il perd sa puissance, c'est le premier aspect. Il ne peut plus se cacher derrière le monde divin. D'autre part, il est jeté sur la terre. Et sous la forme du serpent, ce serpent qui rampe dans la poussière. Je vous ai donné pouvoir d'écraser, de fouler aux pieds la puissance de l'ennemi. Oui, ces serpents qui sont désormais sur la terre et qui ne peuvent plus se cacher derrière le monde divin, mais qui ont encore beaucoup de choses à proposer aux hommes qui veulent les suivre. Pour les tenter, bien sûr, beaucoup de séduction, de richesses, etc., etc. Eh bien, les croyants ont le pouvoir de les fouler aux pieds, les écraser. C'est ce que dit Jésus. Hein. On marche dessus ou on marche au-dessus, au travers, vous voyez. Rien ne pourra vous nuire. Et Jésus nous précise même que les démons sont constitués de deux sortes de bataillons, en quelque sorte, d'armées. Vous avez les serpents et vous avez les scorpions. Le serpent, c'est celui qui attaque avec la tête. Il mord. Donc celui-là, c'est le démon qu'on reçoit, la tentation, vous voyez, qui s'oppose à nous de manière frontale. On doit s'opposer à elle, plus exactement. C'est la tentation, le mal qui est proposé pour lui-même et en lui-même. Et ça, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça marche sur beaucoup. Et mais, comment dire, pour conquérir le monde, pour conquérir, pour avoir une bonne situation, etc., mépriser tous les autres, voire les persécuter. C'est le mal là qui est exalté, seul le mal triomphe, seul le mal est le plus fort. « Convertissez-vous au mal, disent les démons. Voyez à quoi ça sert de faire le bien, puisque vous êtes malade comme les autres, et en plus vous avez beaucoup moins de moyens, vous triomphez pas. Nous, nos disciples, eh bien, on les soigne. » Le mal est proposé comme tel, comme étant un bien. C'est un sacrilège total, bien évidemment. Ça, c'est les serpents. Les scorpions, eux, on le sait bien, c'est dans leur queue que se trouve le dard. Ce n'est pas la bouche qui est inquiétante, c'est le dard. C'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas comme des agents du mal. Ils se présentent, eh bien, évidemment, soit comme des agents de Dieu, soit comme simplement des phénomènes humains, des raisonnements humains qui s'imposent à nous, qui ne mangent pas de pain, mais qui sont évidemment attractifs. Ce sont des tentations, là encore. On pourrait dire que le mal n'apparaît que comme une conséquence de nos choix, la conséquence de choix erronés. Mais c'est toujours des démons qui sont là pour engendrer ce type de résultats. Alors que ce soit frontal ou que ce soit caché, mensonger, comme le scorpion, eh bien, le croyant a le pouvoir de fouler toute cette puissance démoniaque. Nous avons le pouvoir de combattre les tentations. Et ça, c'est tellement précieux. Les démons ne peuvent nous faire aucun mal. Alors évidemment, il y a des croyants qui pêchent aussi, qui se laissent avoir par imprudence, donc par orgueil, ou par ignorance. Donc leur foi est encore vacillante. Peu importe les motifs par lesquels on se fait avoir, on se fait toujours avoir d'une façon ou d'une autre par les démons. Mais le tout, c'est d'avoir cette confiance qu'ils ne peuvent pas nous attaquer, nous vaincre, nous briser profondément. Dieu est plus fort qu'eux. Alors voilà les armes qui nous sont proposées pour dire quoi ? Eh bien pour dire que Dieu est plus fort que le passager, que le monde terrestre n'est pas l'enjeu ultime de la bataille spirituelle, que cette sagesse que Jésus nous apporte dans les évangiles consiste à nous parler de l'au-delà, de l'éternité. Alors suivons-le. Acceptons de devenir ses disciples, au moins de temps à autre, d'être envoyés comme ça en mission, et avec toutes les qualités que le Seigneur nous propose d'avoir, la gratuité, l'assurance que c'est lui qui fera tout et non pas nos petites qualités personnelles, et être des hommes et des femmes désintéressés. Nous proposons le Christ, nous ne l'imposons pas, le christianisme n'est pas une idéologie, nous n'avons pas à conquérir le monde, nous avons à conquérir le cœur de Dieu.